D'abord, je veux dire à tous bonjour, vous remercier d'avoir bravé les intempéries. Et puis, je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle journée sur la Confédération de Gérard Pesticati et de Cagnétine Bourbelin organise. Alors, l'an dernier, nous avions eu surtout le souhait de nous faire connaître et de vous dire notre volonté de partager et de travailler en réseau avec les structures et les institutions qui œuvrent auprès des personnes âgées souffrantes. Je crois que le thème principal de notre réunion d'aujourd'hui interroge la volonté et l'efficience de ce partage. La question du lien soignant qui fait l'essentiel de notre rencontre d'aujourd'hui a été bien sûr maintes fois débattue. Mais vous le savez bien, il n'y a pas de rencontre qui ne soit pas nouvelle, et cette idée du soin est pour chaque situation finalement une autre affaire. Chaque fois qu'un problème est identifié, nous l'appréhendons avec nos savoirs, ceux appris de théories diverses, construit par chacune de nos expériences, se transmis par nos collègues, mais nous l'abordons aussi avec la ou les croyances, l'attente ou les refus du patient âgé ou des siens. La maladie se pose toujours comme une énigme, que l'abord scientifique, notre métier, dévoile plus ou moins complètement. Mais la maladie porte en elle des conséquences qui, des affects aux positions théoriques de chacun, nous atteignent, nous troublent et nous risquent. Nous ne sommes bien sûr jamais seuls, nous les soignants. Jamais seuls parce que nous sommes plusieurs, jamais seuls parce que nous avons notre savoir. Nous œuvrons pour autrui, avec quelquefois, malheureusement, la malchance d'une incompréhension. Cette incompréhension est un risque. Un risque d'inefficacité, un risque aussi d'introduire notre propre mal-être, et puis quelquefois c'est le risque d'une hostilité extérieure qui nous malmène. Notre savoir n'est jamais suffisant, il n'est aussi jamais une maîtrise de l'autre. C'est toute l'affaire de la rencontre, d'asseoir ce qui peut être convenu et de rendre perceptibles certaines incertitudes. Mais le soin n'est bien évidemment pas qu'une relation émotive, il est un acte technique, lequel s'inscrit dans l'alliance esprit. Nous allons donc aujourd'hui aborder les thèmes du bien soignant, de l'alliance, de la résistance, de l'illusion nécessaire aussi, et pour en parler, j'ai le grand plaisir, nous avons même l'honneur d'accueillir nos deux conférenciers, Louis Coton, qui nous vient de l'Université de Lyon, et Cyril Adil Thomas, que je présente comme notre client voisin de Quimperlé, et qui nous avait fait l'an dernier déjà l'honneur de sa prestation. Pour tous les deux, un grand merci d'avoir bien voulu nous rejoindre de si loin ou de si près, mais enfin d'avoir voulu faire le déplacement. Nous les connaissons déjà, nous connaissons leur publications, leur communication, leurs ouvrages aussi, dont vous avez ici les références. Et puis je remercie aussi le groupe de soignants qui, en fin de matinée, nous présentera son travail collectif, ceux qui œuvrent sur le terrain. Alors la journée est organisée en deux temps. Ce matin, nous avons des conférences. Cet après-midi, nous espérons accueillir un public plus large, pas uniquement les soignants, mais des familles, peut-être de patients ou un public curieux. Cet après-midi, nous reprendrons dès 13h30, si vous le voulez bien, de façon à terminer notre journée aux alentours de 15h15, 15h30, afin de laisser M. Coton à rejoindre rapidement l'aéroport de Brest et de rester dans les temps dont il dispose. Voilà, bienvenue, bonne journée à tous. J'espère que, comme l'année dernière, ce sera l'occasion des échanges et des débats. Je vais souhaiter passer la parole maintenant à M. Ploton.
Merci, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien au fond de la salle? Merci, d'accord. De toute façon, je vais me lever pour me translater vers l'ordinateur et je vais vous parler de quelque chose qui est probablement hérétique, mais pourquoi pas. C'est un peu la question de l'appropriation de sa tâche par le soignant.
Donc ça va à contre-mode. Complètement à contre-mode, mais pourquoi pas. Mais je crois qu'il y a un risque, je parle d'un point de vue gériatrique, plus que d'un point de vue psychiatrique. Il y a un énorme risque, c'est au fond que le patient, le malade, se sente être un client de passage. Un client de passage, comme dans les villes de saison, dans les restaurants, chez les épiciers, c'est le client de passage, c'est celui qui se sent assez mal servi, parce qu'il n'est pas le client qu'on appelle par son nom, parce qu'il n'est pas le client connu, qui a ses habitudes et qu'on connaît bien. Donc, un client de passage pour les soignants, pour les autres patients, avec une dérive, qui est la dérive vers ce que j'appellerais un service impersonnel. On va faire des choses parce qu'il faut les faire, on va les faire très bien, mais on va aussi, parce qu'on est là pour une journée, pour une semaine, parce qu'on est là en roulement, on va aussi se sentir soi-même un soignant de passage. Je viens dans cette unité de soins, mais j'ai 3 unités de soins dont je m'occupe, je viens de telle heure à telle heure, ou bien je viens parce qu'on m'y a détaché, parce que je suis en intérim, parce que je suis en remplacement, parce que nous sommes tous interchangeables, et j'y viens. Nous sommes des soignants interchangeables, c'est pas encore très vrai pour les médecins, mais rassurez-vous, de toute façon, les psychiatres en auront plus dans quelques années. Je sais que j'occupe un poste où je ne serai pas remplacé. Je sais. C'est que j'occupe un poste qui était à plein temps, je suis maintenant à Epsilon, et où le reste n'a pas été remplacé. Il n'y a pas plus de raison pour que l'échelon soit remplacé que la majorité du poste n'a pas été. Donc, service impersonnel, soignant de passage, pour les patients et aussi pour les autres soignants. C'est-à-dire qu'on arrive dans une équipe, on y fait son boulot, on en repart, on me prélève quelqu'un du CMP, on l'envoie à l'intra, comme on dit, à l'intra hospitalier, etc. Il a fait un dimanche, il a fait une journée, il a fait ceci, cela, il est opérationnel. Mais il y a quelque chose qui est perdu, c'est le sentiment d'appartenance à une équipe ou qui se perd, c'est ce qu'on appelle l'esprit de corps. L'esprit de corps qui fait que toutes les armées du monde, mais dans d'autres professions, on se sent solidaire, on a un esprit particulier et on gagne des batailles parce qu'il y a ça, qui nous soude les uns aux autres. Il y a un risque. Il y a un risque. Je risque de faire jeter des tomates d'ici tout à l'heure, mais il y a un risque, c'est qu'on dérive petit à petit vers le service minimum. On fait ce qu'il y a à faire, c'est prévu. Et puis, en gériatrie, il y a un risque supplémentaire, c'est qu'on dérive un jour vers le faire semblant. Après tout, on fait les choses en surface, ça a l'air d'être fait, c'est comme si c'était fait, et c'est ce que j'appellerais toute publicité mise à part du service canadien. Alors, bien sûr, les procédures seront respectées, les formes sont respectées, procédures. Les procédures sont utiles. Elles sont utiles puisque, parce que j'ai des automatismes, je peux m'économiser. Parce que j'ai appris à conduire ma voiture, j'ai des automatismes, donc je peux être plus vigilant pour l'imprévu. C'est pareil pour le pilote qui décolle, il a tous ces trucs, ses interrupteurs sur lesquels il doit appuyer, ses voyants qu'il doit contrôler. Je n'ai rien contre les procédures. Je crois qu'elles sont utiles, mais dans des domaines limités et en termes de lignes directrices générales, j'y reviendrai tout à l'heure. Parce que le risque d'être dans le système procédure, c'est la désaffectivation des situations. On va prendre des décisions après avoir rempli des cases, fait des croix, établi un score, et on n'est pas impliqué affectivement dans la situation. Ce risque-là est plus important qu'il n'y paraît. On va arriver à des prises de décision mécaniques et une application mécanique des décisions. C'est-à-dire que le patient sera objectivé, traité comme un objet. Un objet de soin. Mais c'est vrai éventuellement s'il est allongé sous un champ opératoire, sous anesthésie générale, il est important que l'aide soit un objet de soin, qu'on soit très technique. Est-ce aussi vrai quand il s'agit de
comment dire, de mobiliser une plus-value psychomobilisatrice pour le remettre en selle, pour mobiliser ses capacités intimes, pour l'aider à empêcher lui, par exemple, tout simplement. Je ne sais pas. Il y a un autre risque, c'est que nous y perdions dans notre capacité de penser. Que nous soyons, dans cette affaire, des gens qui ne pensent plus, tout bêtement. Et je dirais même que ces procédures participent à un mécanisme général d'attaque à la pensée. Nous, par faire l'économie de pensée, les mêmes en viennent à nous interdire de penser. Or, l'attaque à la pensée est une notion importante en psychiatrie. Je dirais même que l'attaque à la pensée est un mode de défense des patients. Et nous allons, nous, peut-être, avec ces procédures, nous organiser spontanément pour organiser de façon obsessionnelle nos tâches, pour ne pas devenir confus. Effectivement, c'est un mode, ça nous permet de ne pas devenir confus, c'est utile, mais est-ce que ça va justement être à l'enfant du soin? Je pense personnellement qu'il est utile, il est plus utile de poser un cadre de réflexion. Il est plus utile que de se cramponner à des modalités obsessionnelles d'organisation des tâches pour ne pas devenir confus, qu'il est utile de poser un cadre de réflexion, un cadre où on puisse penser, où il puisse y avoir effectivement des cas de conscience. Il y a peut-être une valeur thérapeutique du cas de conscience. Qu'un patient nous pose un cas de conscience, qu'on lui fasse l'honneur de se poser un cas de conscience à son sujet, à sujet d'une décision à prendre, rentrer chez lui, ne pas rentrer chez lui, prolonger des soins, ne pas les prolonger, le placer, ne pas le placer, donc je dis ça dans le désordre, c'est peut-être important, ça va peut-être créer des liens importants entre lui et nous, et lui dire quelque chose de son importance, et probablement contribuer à le soigner, à lui faire du bien, je vais encore vous dire pourquoi, à la dépôt suivante. Mais effectivement, pour ça, il faut se donner les moyens de se poser la question du sens. Le sens que les choses ont pour nous, le sens que les choses ont pour nous. Et peut-être aussi se doter de stratégies de prise en compte de l'ambivalence, de la sienne, de la nôtre. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que dans une équipe, il n'y a pas ceux qui ont raison, ceux qui ont tort. C'est pas parce que éventuellement Cyril dira ce patient doit rentrer chez lui, et parce que je dirai il doit placer, que Cyril est le bon, que je suis mauvais, je crois que ça m'arrange pour donner des bons rôles. Non, nous aurons peut-être perçu l'un et l'autre quelque chose que les patients expriment dans la visite. J'ai envie de rentrer chez moi, j'ai peur de rentrer chez moi. Et nous aurons peut-être tous les deux raison, et nous aurons peut-être simplement, à travers notre discours, été les porte-parole de tendances qui sont en débat au fond des patients et qui n'ont pas donné lieu au débat inconscient et qui n'ont pas donné lieu à un compromis psychologique. À charge pour nous de prendre acte du fait que notre contradiction apparente est le reflet de contradiction intime et vient dire, peut-être, c'est une hypothèse de travail, c'est une hypothèse utile, vient dire que le patient est en fait un être de contradiction et que c'est cette contradiction que nous avons à prendre en charge. Une autre façon de travailler que la façon persécutoire, consistant à dire il y a la politique, il y a la mauvaise politique, etc. C'est une façon de travailler pour défendre sa capacité de penser, et puis je pense aussi que nous avons intérêt à simplement quelquefois émettre des hypothèses, c'est sans doute ce que je viens de faire, mais aussi à rêver, à parler librement, à exprimer nos pensées, les pensées qu'un patient nous suggère. Je n'ai pas les mêmes pensées en présence de telle ou de telle patient. Je suis le même. Et il est très intéressant éventuellement de mettre en commun, après un entretien, de mettre en commun ce que la situation nous a inspiré. Après une séance de groupe, ce que la situation nous a inspiré. Et ce travail est un travail thérapeutique aussi, c'est un travail de par excitation, parce que de penser fantasmatique sur des situations où il n'y a plus de fantasme, c'est ce travail que nous a appris Dion par rapport aux thérapies de groupe. Ça a un effet de par excitation. Ça a un effet thérapeutique. Nous allons, en face de, d'éléments fonctionnels bruts, mettre des éléments structurés qui seront notre travail psychique qui aura changé.
changer la situation. De fait, votre travail fixe sur la situation, mais nos représentations aussi contribuent à changer la définition de la situation. Tout à l'heure, on cherchait une prise de courant, on ne la trouvait pas, il suffisait de changer de perspective pour la trouver, elle était sous les phrases. Quelquefois, en changeant de perspective, en changeant de point de vue, d'endroit où on regarde les choses, les solutions qui étaient inimaginables deviennent possibles. Et dans tous les cas, la réalité de la situation change. Quand on a changé la définition, on a changé la représentation qu'on avait de la situation, ça n'a jamais avancé. C'est ça, dépendre de capacité de penser. Et c'est ça, utiliser les ressources des soignants. Et c'est ça qui n'est pas possible quand on s'organise pour dire il faut changer d'unité tous les 6 mois, comme ça on ne souffrira pas. C'est flou. On en a souffert, on aura emmagasiné les images, et en plus, en pire, j'ai envie de dire, on ne se sera pas donné les moyens de résoudre les problèmes. C'est tout ce qu'on ira gagner. Plus en avant. Plus en avant, parce que je pense, et c'est ça que je garde en réserve, que l'investissement est le socle du soin. Que nous avons tous besoin de compter, besoin d'être reconnus. J'ai besoin d'être reconnu comme soignant, et c'est pour ça que je ne veux pas être un soignant de passage dans une équipe, ou dans une unité de soins par rapport aux patients, et réciproquement, le patient a besoin d'être reconnu, il a besoin de compter. C'est pour ça que la plupart des gens font des troubles du comportement. Voyez les démons dans les unités de soins. Voyez les vidéos qui ont été faites sur les démons concernant les troubles du comportement. Mais avec surtout ça, point commun, tenter d'attirer l'attention sur eux. Et là, il y a eu quelques travaux scientifiques qui ont été faits à la radio, je suis très fier, dans une équipe interne, par des gens qui maintenant sont malheureusement à la retraite, et ils l'avaient bien mérité, Paul Gérard et Anne Bazor, sur le rôle de l'investissement. Ce sont des gens qui ont démontré que dans la psychothérapie, toutes les théories conduisaient pratiquement au même résultat thérapeutique. Ce qui faisait la différence, je schématise, ce qui faisait la différence entre une thérapie qui marche et une thérapie qui ne marche pas, c'était le facteur de prévisibilité du résultat, c'était la qualité de l'alliance thérapeutique. Et rien de ça. Alliance thérapeutique, ressources psychomobilisatrices. Mais, je vous apprendrai bien, il n'y a pas d'investissement dans une part d'appropriation. Je ne peux investir que ce qu'on m'autorise à m'approprier un tout petit peu. Attention, pas d'appropriation toute puissante. Rien ne nous appartient de façon toute puissante. Pas plus de maison que notre voiture, que quoi que ce soit. Il y a des autres. Il y a toujours des limites à l'appropriation. Il n'empêche que pas d'investissement sans appropriation. Pas de motivation sans marge de manœuvre. Et je prétends que mettre de la vie dans les unités de soins, ce n'est pas mettre de la justice, mais c'est mettre de l'affect, c'est mettre du désir, c'est mettre de l'investissement. Et c'est à partir de là que vous mettez de la vie. Ce qui m'amène à ressortir un vieux dada, la vraiment. Cyril, M. Barranger vont dire, c'est incroyable, chaque fois qu'on sort de la famille, celui-là, il nous ressort le même machin. Eh oui, l'option psychogériatrique. L'option psychogériatrique à la mode genevoise de la méthode. Je n'ai pas résisté à la tentation de vous en parler, mais je ne prends pas le risque, plus personne ne s'en souvient. C'est un peu comme Luc Mariano, j'entendais ce matin un gars qui chantait fort bien à la télévision. Je voyais à la télévision un gars qui chantait fort bien, pardon, il chantait des Luis Mariano, et c'était remarquable. Donc on peut de temps en temps faire redécouvrir aux jeunes générations que vous êtes des choses complètement oubliées. Qu'est-ce que je veux dire avec l'option psychologique? C'est qu'il n'y a pas le médical et le psychologique qui puissent être disjoints. Ce n'est pas une affaire de dosage dans une unité de soins, mesdames les infirmières responsables, mesdames les cadres de santé, messieurs les cadres de santé. Ce n'est pas une affaire de dosage, messieurs les directeurs d'établissement, messieurs les psychiatres, entre le psychologique et le médical. C'est une nécessité de mise en perspective qui conduit aux soins. Comme dans un système ordonné, dans un système de repérage dans un plan pour la vitesse des trains, donc que sais-je, il y a ce qui est matériel, il y a ce qui est psychologique, et puis le point que vous avez placé, c'est la façon de faire, va tenir compte des besoins matériels et des besoins psychologiques. Il n'y a pas de choix innocent, il n'y a pas de choix purement matériel. Tous les choix ont un impact psychologique, psychomobilisateur, ils sont significatifs de quelque chose.
Il n'y a pas de choix de décider. Et ça, c'est curieux.
C'est que les vendeurs de voitures d'occasion le savent.
C'est que les vendeurs de pizza le savent. Dans les formations de quelle marque de pizza ils veulent dessus, c'est inscrit les façons de faire, l'estime de soi, la prise en compte des enjeux subjectifs est fondamentale. Et on vous vend autant de la pâte à pizza que du rêve. Une image de vous. Et curieusement, nous ne savons pas en milieu soignant mettre en perspective, regarder à la lumière, regarder les enjeux matériels à la lumière des enjeux psychologiques et réciproquement. D'où l'importance de rappeler la question de l'interpellation pluridisciplinaire. Une équipe gagnée avec le pluridisciplinaire, pourquoi tout bêtement? Parce qu'il y aura toujours un poil à gratter, il y aura toujours quelqu'un qui, grâce à sa formation différente, grâce à sa culture différente, pourra dire aux autres, mais là, ce que tu fais, je ne comprends pas. Explique-moi. Donne-moi des justifications. Il y aura au moins cet avantage dans l'interpellation pluridisciplinaire, et le psy, celui dont on ne parle jamais, en tout cas en milieu hospitalier général, pour vous assurer du système. Le mot psy n'existe pas en général. On parle de social, on parle de comportemental. J'étais dans un congrès de soins palliatifs récemment, on parlait du rôle du kiné, du rôle du ceci, du rôle du cela, jamais du rôle du ci. Donc je fais de la parano, vous voyez, authentique, là, je suis consciemment persécuté, et je peux faire une interprétation rationnelle concernant le sentiment de dévalorisation du ci, est-ce que c'est en voie de disparition, je vous disais tout à l'heure, eh bien le ci est là, effectivement, pour dire mes bons sens, est-ce que vous avez pensé à ce que ça va lui faire au fond de lui, ou pas, ce que vous faites et la façon de le faire. Il va aussi interpeller sur la question de l'institution. L'institution, ce n'est pas simplement des murs et des solutions techniques. L'institution, ce n'est pas clonable. Les soignants ne sont pas interchangeables, je vous l'ai dit et je crois vous avoir assisté. Et l'institution ne peut pas être créée notamment en chargeant les uns de faire le projet et les autres de le réaliser. Ça, j'ai trop vu ça en matière de maison de retraite, le projet clé en main. Comment voulez-vous habiter le projet qui a été fait par un autre pour un autre? Une institution, c'est un groupe, c'est un corps social. Ça a une vie, ça a une histoire, ça passe par des étapes, ça a des mécanismes défensifs, ça mûrit. Et les points de vue, l'idéologie, l'état d'esprit mûrissent, les pratiques évoluent, les façons de prendre les problèmes évoluent, et ça, ça ne s'invente pas du jour au lendemain, ça demande du temps. Une institution, ça a une identité, et cette identité repose notamment sur le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance à un groupe, et alors, c'est une question d'investissement, ça ne se décrète pas d'un trait de plume. Et je pense que l'institution vivante, c'est l'institution militante. Celle qui a une forme de foi, avec des garde-fous. Bien sûr, il faut se méfier de la fétichisation du projet, et il faut se méfier de ne pas avoir faire une institution totalitaire où, au nom du projet, on s'accessive à les malades et les soignants aussi. Mais l'institution et le soin, c'est fait pour délivrer des actes significatifs. À propos, on me dit toujours, on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens, etc. Moi, je connais un gériatre qui m'a appris il y a très longtemps que, comme vous ne pouvez pas faire pour tous, on pouvait au moins le faire pour un malade. Et il y a toujours une valeur d'exemple, une valeur formatrice de la façon de travailler autour d'un cas. Et je peux vous dire, on peut faire l'hypothèse que ce qui est fait pour un membre d'un groupe s'adresse sur un mode symbolique au groupe tout entier. Et qu'à travers la réponse clinique à un cas, à un membre d'un groupe, on fait une réponse clinique au groupe dont il est le symptôme. Peut-être ce cas est-il un cas symptomatique et peut-être il doit interroger à travers ce cas concernant tout le groupe. Ce que je veux dire, c'est que quoi qu'on fasse, en matière de quête de sens, il y a des retombées implicites générales. J'ajouterais que ce n'est pas parce qu'on ne peut pas faire pour tout le monde qu'on doit faire pour personne, je vous l'ai dit, et que ce n'est pas parce qu'on ne peut pas tout faire qu'on doit rien faire. Mais ça, c'est une vision personnelle. Et je crois que d'un point de vue éthique, j'ai le seul de référence à vous opposer. Si vous n'étiez pas d'accord, je pense que vous ferez la capacité de parler entre vous avec moi après la question. Ce qui m'amène vers la conclusion. On est sur le bon cours, hein, c'est pas une minute. Vous avez encore deux minutes. C'est que peut-être on peut travailler en définissant par contrat, façon négociée, des objectifs avec nos patients, avec leur famille et entre nous. Des objectifs négociés et révisables. Et que par contre, on est en droit de s'appuyer sur des principes qui nous appartiennent et qui eux sont intangibles. Par exemple, dire à l'heure des choix, je choisis toujours ce qui narcissiquement va dans le sens de la revalorisation du soignant. Pour la Suisse, c'est enregistré. Oui, ça va dans le sens de la revalorisation. Oui, je ne demande pas ce que j'ai dit. Ça va dans le sens de la revalorisation du soignant, mais il s'agit toujours de revaloriser l'interlocuteur, le patient. Et maintenant, je me revalorise si je le revalorise. Parce que là, je fais mon boulot. Et peut-être qu'on peut dire que la renarcissisation va être le levier du soin, si on a dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'investissement est le socle du soin. En cette métaphore, du socle du levier, du point d'appui du levier. Et peut-être qu'à ce moment-là, je peux avoir ce principe intangible pour en avoir d'autres. À partir de là, on va peut-être devoir appliquer ce que j'appellerais des règles de délégation claires des tâches, des règles d'appropriation des tâches, mais appropriation nécessairement partielle. Ça, c'est fondateur du cadre institutionnel. Et encore faudra-t-il compléter cela avec des procédures d'analyse cadrées de la prise de décision clinique, de l'analyse des situations. Cadrées, ça veut dire avec une forme de prévisibilité, avec une forme de loyauté, de transparence. On ne décide pas dans un couloir, on analyse à un moment donné avec des interlocuteurs nécessairement présents. Il doit nécessairement y avoir, par exemple aussi, je vous le disais tout à l'heure, par exemple les infirmières, par exemple aussi, pourquoi pas, dans certains cas, le patient et sa famille. Il y a des temps d'analyse des difficultés qui doivent être repérés et il y a une prévisibilité, une forme de loyauté qui passe du bonheur de chance. Hein, les décisions prises, le dernier qui a parlé a raison, ça c'est persécutoire. Ça va venir de la persécution, ça ne colle pas. Ces procédures, elles vont avoir à se poser la question des objectifs. Est-ce qu'ils sont adéquats? Est-ce qu'ils sont inadéquats? Est-ce qu'il y a eu des dérives? Est-ce qu'ils sont à réaliser? Elle va avoir à se poser la question de l'appropriation. Là aussi, est-ce qu'elle a été adéquate? Est-ce que nos règles d'appropriation sont fonctionnelles? Est-ce que c'est vraiment un tel qui doit être chargé de telle tâche? Et ça veut dire quoi l'appropriation? Ça veut dire que peut-être je peux utiliser ma polyvalence en termes sociaux. Je peux être suffisamment lié avec un malade pour sortir de mon rôle, pour aller jusqu'à faire du social. Mais il faut que je sache ne pas aller trop loin parce qu'à un moment, je dois peut-être aller voir l'assistance sociale pour lui demander conseil, voire même à un moment donné, lui demander non seulement un coup de main, mais de prendre le relais pour quelque chose que je ne puis pas faire. Ça veut dire ça aussi. Ça va utiliser notre polyvalence, mais aussi savoir à un moment. En appeler un autre. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait une régulation qui n'est pas l'analyse des difficultés et que dans ces temps d'analyse des difficultés, on puisse dire, attends, là, il faut que tu te fasses aider, etc. À une époque, nous avions des réunions comme ça entre les municipalités et le secteur-ci, et on avait un principe qui va vous faire frémir, mettre l'œil sous-traitant. Je veux dire que c'est un principe de bâtiment. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon que la dominante était psy ou sociale, le secteur psy était maître d'œuvre de la prise en charge, elle était le référent aux yeux de la famille. Et ce qu'on demandait aux gens de la municipalité, c'est de sous-traiter certains aspects, c'est d'envoyer les ménagères, d'envoyer un portage de repas, et sans être responsable devant sans avoir à répondre du cas devant la famille, ça s'inscrivait dans un plan d'action qui était psy, et réciproquement à un autre moment, si la dominante devenait sociale, c'est-à-dire si les choses s'étaient calmées,
nous, on pouvait simplement intervenir pour une ordonnance, un renouvellement de médicaments, et à ce moment-là, c'était le coordonnateur municipal qui était le référent de la prise en charge, l'organisateur principal de la prise en charge, celui qui avait un peu une vision d'ensemble, et nous, simplement, on était porte à pointe. Voilà ce que ça veut dire. Donc on peut effectivement à ce moment-là analyser la question des objectifs, la question de la population. On peut aussi se poser la question de la pertinence des principes. On va pas réviser nos principes toutes les semaines. On peut aussi se poser la question de la pertinence de nos procédures d'analyse des difficultés. C'est pareil, on ne va pas les réviser toutes les semaines, mais il n'empêche qu'il faut savoir à certains moments se poser des questions. Et croyez-moi, une institution repose beaucoup plus sur ça que sur la question des baignoires élévatrices ou des boucles de sécurité électronique qui font qu'un patient peut dépasser tel ou tel périmètre en déclenchant une sommeil, ce qui fait qu'on va découvrir après. Il fait d'ailleurs que c'est un patient marrant, intelligent, il va sans arrêt faire les 100 pas et entrer, sortir, et nous empêcher de travailler, parce que de toute façon, le patient qui fout le camp, c'est souvent un patient qui a besoin qu'on pense à lui 24 sur 24, et peut-être aurait dû le trouver autrement quand nous pourrons l'impact. D'autres histoires. Qui m'amène pour conclure à reposer, et on a encore juste avant Jésus de la famille, à reposer la question du cadre institutionnel, existence de constance, espace de protection de capacité de pensée, parce que le cadre est là pour nous aider à penser, et on peut vraiment faire un cadre institutionnel et en mettre en place des points de réflexion que si on se réfère à une théorie, il y a des principes directeurs, il y a une théorie des groupes, il y a une théorie du psychisme, il n'y a le cadre qui tienne que s'il s'appuie sur un garant. Le directeur est le garant de quelque chose par délégation dans les tutelles. Nous sommes éventuellement les garants d'autre chose par délégation du directeur. On est toujours garant de quelque chose par délégation de quelqu'un d'autre qui nous a donné l'onction. Le garant n'est pas élu. Il ne doit rien au groupe. Si, il lui doit être compétent. C'est tout. Mais pour qu'il puisse remplir son rôle de garant, il ne peut pas être désigné par le groupe. Ne me demandez pas pourquoi, c'est empirique. Je ne saurais pas le démontrer. Et si on veut que ça fonctionne mieux comme ça. Et puis bien sûr, le cadre institutionnel doit faire l'objet lui-même de procédures de révision. On peut se poser la question de la pertinence de la théorie sur laquelle on s'appuie. On peut se poser la question de la pertinence des principes qu'on a retenus. Sont-ils adéquats, sont-ils pas adéquats? Ça ne peut pas se faire plus du jour, je vous le disais. Et il faut vraiment que là, il y ait encore des procédures de réflexion sur le cadre institutionnel. Je regrette que dans beaucoup de maisons de retraite, il y ait des projets d'établissement qui soient élaborés seulement en catimini, sans que tous les acteurs puissent y être associés. Je regrette effectivement, là encore, ça serait persécutoire, que le secteur psychiatrique soit appelé comme ça marche pas, au lieu d'être appelé comme les pompiers, pour voir où on met les portes coupeuses, ou voir où on met les électeurs, ou voir où on met les médecins. J'aurais préféré, dans bien des cas, pouvoir débattre de choses avant qu'il soit trop tard et avant qu'on ait sans arrêt, nous, à éponger ou à écoper. Mais ça, c'est la vie. Je vous remercie de votre attention.
Monsieur Poton, merci beaucoup de votre intervention qui interpelle fortement les soignants que nous sommes tous ici. Y a-t-il des questions? Donc déjà, pour adresser M. Poton, je propose que nous nous accordions encore quelques minutes et puis après nous passerons la parole à M. Azichemin. Des questions? Allez.
Je suis confrontée, alors effectivement le turnover, vous avez parlé du turnover, régulier du personnel, et où je dirais que moi personnellement, je ne vais pas parler de mon école, ce serait plutôt dans les ans de presse, je dirais du personnel qui est pendant 5 ans, dans le même secteur. Et j'avoue que ça me pose aussi d'autres questions. Et donc, vous n'avez pas du tout abordé dans votre présentation. J'ai un peu votre opinion là-dessus.
Je n'ai pas abordé, mais j'y ai été confronté. J'ai été confronté à la rotation obligatoire à une époque pour faire avaler à des équipes et à une institution un projet d'hôpital de jour et de redéploiement, j'avais proposé une rotation tous les 3 ans. C'est là que j'ai découvert que c'était catastrophique, parce qu'on cassait l'investissement. Parce que les gens, quand ils arrivaient au bout de 2 ans, 2 ans et demi, se démobilisaient. Et surtout parce que cet hôpital de jour s'est mis à plafonner. On a résolu un certain nombre de difficultés, et puis, quand j'en ai été à la deuxième équipe, je me suis aperçu qu'on arrivait toujours au même point de difficulté, qu'on plafonnait, et que c'était toujours les mêmes problèmes qui revenaient, qu'on avait un fonctionnement cyclique parfaitement chronique, puisque nous ne pouvions pas aller loin. Alors, je suis prêt à prendre le pari de motiver, de mobiliser une équipe supposée totalement chronique, pour autant qu'elle ait un encadrement de proximité. Pas d'équipe sans cadre de proximité, pas d'équipe sans référent. Autrement, vous avez des caïds. Et si vous avez des caïds, c'est jamais dans le cas de trouver des petits malades. C'est rarement des petits malades. Donc, effectivement, une équipe prise en main avec un responsable local, l'expérience montre qu'on peut remodeler des choses. L'expérience montre même, et s'il y a des projets institutionnels porteurs, qui est formation, etc., qu'il y a de la supervision. Même des gens supposés comme totalement chroniques peuvent un jour, je vais la citer, aller voir ailleurs ce qui se passe, non pas comme un oiseau tombé du nid qui se casse les pattes, et prendre un deuxième envol. Moi j'ai l'expérience d'une dame avec qui j'étais en conflit, genre, conflit en redéploiement, j'arrive, il y a un personnage tout puissant localement, et c'est le choc frontal. Le choc frontal, parce que derrière le personnage faible qui nous a en face de nous, il y a un autoritaire qui se cache. C'est l'air comme ça, gentil, voilà, tout ce que vous voulez, donc, un peu difficile. Donc, ça a été le choc frontal. Je ne sais pas très bien passé. Mais j'ai effectivement porté le pourceau, qui conduit comme un chef de bande. Je ne veux pas dire que tous les coups étaient perdus, mais les coups durs, pas les coups portés fortement et c'est possible. Nous avons fait notre redéploiement. Et puis, un jour, j'ai proposé à cette dame de devenir responsable de l'hôpital de jour, précisément, que je l'aurai. Elle a mis banco. C'est pas ça que je l'ai vu changer. Alors, quelque part, elle s'est mise à devenir coquette, elle s'est mise à devenir non conflictuelle, elle s'est mise à devenir porteuse d'un projet, elle s'est mise à devenir extrêmement utile. Tellement utile, quand elle a pris sa retraite, elle est venue travailler avec moi dans une association pour développer encore un autre projet de domicile collectif pour des conflits. Tellement utile qu'on a du mal à quitter. On peut aussi, à chaque moment, penser que quelqu'un est complètement obsolète, parce que je ne dis pas, j'avais des pensées positives, j'avais dit, elle n'est pas. Et pourtant, qui a un deuxième essor, une deuxième carrière, je peux vous assurer que de quelqu'un de contracté, de mal dans sa peau, que j'ai vu au départ, j'ai vu à l'arrivée, quelqu'un de dépanimé, de fort qui est dans sa peau, et après qu'il a suivi ce chemin, c'est vrai que la deuxième chance, on l'a offerte presque en priorité à des gens comme ça dont on pouvait se demander s'ils n'étaient pas un peu sur le chemin de la chronicité. Un banco. Et ça, c'est mon premier maître en siècle qui m'a appris. Je me parlais dans la voiture d'un homme qui a décidé un jour de faire de l'institutionnel et on ne lui a pratiquement rien donné au départ. Et comme il me disait, j'ai fait le cadre, j'ai fait le sous-sol, j'ai ramassé les tenues. J'ai ramassé des matelassiers pour en faire des allothérapeutes, etc. C'est-à-dire qu'il a donné une dignité à des gens en leur disant de toi, je serai un héros. Et vraiment, ça m'a suffi. Avec des gens qui étaient considérés comme emmurés dans le comité. Tout est toujours suffisant. C'est la foi. C'est la foi qui fait défaut, et la foi, elle est possible. Quand on pose un cadre, donne les moyens d'utiliser ce qui est le plus précieux chez l'homme, sa capacité de penser, son intelligence. J'ai été trop long, mais votre question est passionnante, mais je vous comprends en soi.
Alors peut-être une autre question. Une seule. Oui. Ah, je suis désolé. Je te porte le micro.
La chaire de gérontologie, enfin plus la chaire, mais le poste de gérontologie que j'ai scellé à la grande ville, est en face de psycho, mais psychiatre. Reculez-y.